Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Oui, un Roten sans flamme exceptionnel, pourquoi? Parce qu'on est en mode Coupe d'Europe, encore une fois, la Ligue des Champions, hop, de côté. On parle de Conférence League, on parle d'Europa League, on parle d'Olympique de Marseille, on parle de Lille. On va se régaler pendant 2 heures vraiment. On va lancer déjà le match de Lille qui sera en fil rouge dans l'émission, bien sûr. Et puis, on va surtout lancer l'avant-match de l'Olympique de Marseille avec une équipe XXL. XXL pourquoi ? Parce qu'il y a 2 légendes de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas une légende, mais c'est une légende de l'OM, non, mais une légende des RMC, oui. C'est Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Merci Jérôme, tu peux accueillir les légendes.
Ça va Jean-Louis ?
Avec plaisir, ça va très bien.
On est avec Eric Dimeco. Salut Eric.
Salut Jérôme, salut Jean-Louis.
Salut Eric.
Salut mon passe quoi.
Bon, Pascal Olmeta avec nous. Salut Pascal.
Wow, adieu bon, les amis.
Ça y est.
Bonjour à tous, yo.
Après
Meco, comment il va le Meco, Jean-Louis,
salut
Jérôme.
Pascal.
Les gars, après Paris, ça serait beau que Marseille se qualifie quand même. Vous n'êtes pas d'accord?
Et comment
Paris, bah moi je m'en fous carrément.
Mais après Paris,
Marseille,
je te dis.
Marseille, oui. Mais ce qui m'ennuie un peu, Jérôme, c'est
oui.
Quand tout le monde va y être, les enfants, les ci, les là, tout Marseille, toute ouais. La France.
Et qu'est-ce
le président, il n'est pas là. Et le président de la Ligue, il ne peut pas y aller.
Ah, Franck Macourt n'est pas là. Vincent Labrune n'est pas là non plus.
Ah, mais Vincent,
c'est bizarre. Pour
Vincent
lui,
Labrune,
je
il était à Barcelone.
Il est là quand, il est là quand c'est Paris, mais pas quand c'est Marseille. Je ne sais pas.
Il ne peut pas inspirer toutes les roues qui passent.
Attends, il y a.
Mais bon, je voulais le dire.
Bon, oui, mais bon.
Alors, pour lancer OM Benfica, 2 légendes de l'OM.
Il doit être à fond derrière l'OM, c'est l'essentiel.
Ancien président de l'OM.
Bah oui, c'est pour ça. Donc.
Après, tu dis 2 légendes de l'OM, c'est pas non plus le même poids dans l'histoire de l'OM, les deux.
Bah, les
Pascal
deux,
et Eric.
Les deux ont gagné avec des champions.
C'est exactement le même poids.
Non.
Les deux ont gagné avec des champions, même si Eric, en privé, il aime pas que je dise ça, parce que lui, pour lui, il y en a qu'une ici, c'est Eric.
Vraie légende, bien
sûr. Mais moi, je mets pas de côté Pascal comme ça.
Non, je mets pas de côté.
Pascal a quand même.
On respecte l'histoire du
veux vraiment garder ta maison en Corse, Jean-Louis ?
C'est moi qui ai gardé ta maison, Pascal. Je peux te dire qu'il y a des gens qui tournent autour. Tu dois te méfier. Bon, ce soir, donc, Roten sans flamme autour des français en Coupe d'Europe. 2 vont jouer leur place en demi-finale. Lille, 18h45, le coup d'envoi contre Aston Villa en Conference League. On sera sur place et Marseille face à Benfica à 21h. Aubameyang peut-il qualifier l'OM à lui tout seul? Appelez-nous au 32-16. Ce sera le débat dans Roten se chauffe à 19h. À 18h30, donc l'autre événement en plus d'une place en demi-finale de Coupe d'Europe de Lille à Aston Villa. C'est le retour sur un terrain français pour Emiliano Martinez, le gardien détesté de l'Argentine depuis la finale de la Coupe du Monde. A priori, il devrait être chahuté. Ceux qui lui en veulent encore seront les accusés du soir, accusés d'être ridicules. Ce sera à 18h30. Et puis le casar enchaîné vous proposera la causerie d'avant-match à Marseille. Soyez là, 18h45 donc pour Julien Casar. Mais tout de suite, l'OM s'apprête peut-être à vivre une grande soirée.
Magie divine, le monde du surnaturel.
Des miracles, ça arrive pas très souvent.
Cet homme s'appelle...
Salut, c'est Jérôme Roten.
Les récits vantant ses pouvoirs magiques ont fait le tour de l'Europe.
Moi, je crois pas une seule seconde à ce qu'il puisse rivaliser. Je pense que Marseille, ça va être très très compliqué de se transcender ce soir.
On dit qu'il était capable de voir l'avenir.
Imagine juste, cette équipe, ce groupe-là fait une demi-finale de Coupe d'Europe. C'est plus qu'un miracle.
Il aurait prédit, entre autres, l'assassinat de Kennedy et la Révolution française.
L'OM a encore montré hier tellement de limites techniques, tellement de déchets. Je suis très sceptique.
En nous révélant de quoi demain sera fait, les prophètes et les devins nous sauvent de l'incertitude.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est surveillé comme l'huile sur le feu.
On verra si tu as vu l'avenir. En tout cas,
T'es pessimiste. Bien, c'est une ex de Jean-Michel Larquet. Hein.
Sûrement.
Savez,
tu es donc pessimiste pour ce soir. L'OM joue une place en demi-finale d'Europa League après la défaite 2-1 à Benfica. Il y a donc un but à remonter. T'as un doute donc sur la capacité des Marseillais à renverser le match. T'as déjà donné quelques arguments, mais tu vas pouvoir les répéter. Êtes-vous d'accord avec Jérôme ou au contraire, l'OM peut-il le faire ce soir? Appelez-nous au 32-16 pour débattre. Mais d'abord, direction le Vélodrome. Florent Germain nous rejoint. Peut-être que Jérôme est un
coup. Salut les amis.
Salut Flo.
Ça va les gars?
Alors
Flo,
quels sont les motifs d'espoir pour y croire, Flo, à Marseille?
Il y en a quelques-uns, mais je dirais que ce sont surtout les 30 dernières minutes à Lisbonne qui ont un peu reboosté les Marseillais, parce que bon, on vous fait pas de dessin, l'OM était quand même malmené 2-0. Il y a eu ce but d'Aubameyang et globalement 30 bonnes minutes. Et ce qui a pas mal marqué les joueurs aussi, et j'étais au stade, c'est la bronca quand même de l'Estadio d'Alus au match aller, les doutes des supporters et donc le sentiment que cette équipe du Benfica aussi n'est pas au mieux. Et c'est vrai que les joueurs marseillais sont repartis du coup persuadés qu'il y avait un coup à faire au match retour. L'autre argument, c'est évidemment, puisqu'on parle des supporters, ce vélodrome. Jean-Louis Gasset insiste énormément là-dessus, hein, sur la chance qu'a l'équipe d'évoluer malgré cette saison un peu galère dans une telle ferveur. Stade encore plein, 64 000 supporters. Wow. Le fait que avec Jean-Louis Gasset, les matchs références, c'est en Coupe d'Europe, hein, OM Shakhtar, OM Villarreal, surtout ce 4-0. Roger Schmidt, le coach du Benfica, a repoussé cet argument en disant qu'il était convaincu que son équipe ne serait pas intimidée. Mais c'est vrai qu'on attend une très très grosse ambiance ce soir. Et puis, si on doit citer un joueur qui est forcément très attendu, c'est évidemment Pierre-Emerick Aubameyang. Je sais que vous en parlerez tout à l'heure à 19h, Jean-Louis, mais c'est le fer de lance. 12 buts en Coupe d'Europe pour lui cette saison, et forcément il a à cœur de faire trembler les filets ce soir et de pousser l'OM vers la qualif.
Merci Flo. Bien sûr, si tu as des infos hein, dans l'avant-match, la compo notamment, tu nous fais signe. Tu es le bienvenu dans Rotten sans flamme. Coup d'envoi 21h de ce match. Alors Jérôme, est-ce que tu es toujours aussi pessimiste pour la qualif de l'OM ce soir?
Oui, je suis pessimiste. Après, je demande qu'à être surpris, agréablement surpris. Encore une fois, moi, je veux bien qu'il y ait des motifs d'espoir, et tant mieux. Heureusement que les Marseillais, que les joueurs, le staff, même les supporters ont des motifs d'espoir ce soir. Sinon, ça sert à rien d'aller au match et ça sert à rien de le jouer. À l'arrivée, il y a qu'un but à remonter, déjà pour arracher la prolongation. Et puis, tu peux te qualifier aussi au pénalty, c'est tout à fait possible. Mais ce que je veux te dire, c'est que j'ai du mal à y croire. Parce que à chaque fois qu'il y a eu une énorme pression sur l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome, ça s'est très souvent mal passé. Et donc moi, pour gérer cette pression-là à Marseille, pour prendre le dessus, pour rivaliser avec un adversaire de qualité, parce que je veux bien que collectivement Benfica a des lacunes, ils l'ont montré tout au long de l'année, ils l'ont même montré, et Flo a raison, sur une partie du match aller, mais n'empêche qu'ils ont des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Il y en a beaucoup, il y en a déjà deux qui sont champions du monde. Il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà œuvré en Coupe d'Europe et ont eu des matchs références, contrairement à l'Olympique de Marseille, parce que si tu retires Aubameyang, franchement le reste c'est très très limité en Coupe d'Europe, et que là on parle d'un quart de finale pour une place en demi-finale, donc il faut aussi avoir de l'expérience. Et je pense que l'OM, c'est pas je pense, c'est que je le sais, je le vois, l'OM manque cruellement d'expérience et beaucoup de qualité, voilà. Et donc pour emmener ce formidable public, cette ferveur là, il faut aussi que les joueurs donnent envie au public de les soutenir. Et bah j'ai peur que on soit encore déçu. Dire je franchement, quand Ndiaye est annoncé aujourd'hui, Harit est annoncé, Veretout est annoncé, Unai est annoncé pour créer du jeu. Bah excuse-moi que ces joueurs-là m'ont jamais fait grimper au rideau, quoi. Donc je suis sceptique par rapport à ça. Contrairement, encore une fois, je te le dis, à l'adversaire, parce que à l'adversaire, quand tu vois Di Maria, Rafa Silva, tu vois Neres, rien que ces trois joueurs-là, j'ai bien peur qu'ils fassent mal à l'Olympique de Marseille.
Eric, de toute façon, côté compo, Gasset n'a pas le choix.
En plus, il fait avec les hommes
qu'il a.
Exactement.
Et limite même, il est embarrassé parce que il pense à ne pas avoir assez de monde d'expérience.
Ok. Eric, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme?
Bah, écoute, Jérôme nous fait une analyse rationnelle de la saison de l'OM.
Analyse de Parisien.
Pas du tout, mais arrête avec ton Parisien.
Non, c'est une analyse rationnelle de la saison de l'OM, sauf que ce match-là est irrationnel. Et on l'a vu sur la campagne européenne depuis le début de la saison, et notamment sur les matchs à élimination directe, parce que bien sûr, Jérôme, toi tu prends tout ce qui n'a pas marché cette année, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de carences dans cette équipe-là. On ne s'est pas régalé en général, on a souvent été déçus, sauf que ce soit contre Villarreal, que ce soit contre Donetsk, que ce soit contre qu'il y avait Ampoule, il y avait Athènes, il y avait
Brighton,
et il y avait l'Ajax. Tu te rends compte finalement que l'OM a mis des buts, que l'OM a souvent gagné, a même pratiquement gagné tout le temps. Je crois qu'il y a que nul contre Brighton, je pense.
Ouais, voilà.
C'est ça. Donc tu te rends compte que et c'est là où, si tu veux, ton analyse rationnelle est gênante, parce que on se rend compte même cette année où l'équipe est pas fabuleuse, où il y a des recrues qui ont eu du mal à trouver leur marque, où on s'est souvent ennuyé. Eh ben, en Ligue Europa, ça n'a pas été le cas. Ça a été des matchs enlevés. Le match contre l'Ajax, ça doit être un 4-3, si je me souviens bien.
Ouais. Oui, voilà. Avec donc, une équipe d'Ajax, on peut pas dire que c'est la meilleure de ces dernières années.
Oui, mais ça, c'est toujours pareil. Quand tu fais une analyse, dans l'analyse, il y a le pour et le contre, il y a le noir et le blanc, il y a le positif et le négatif. Tu peux voir que le négatif, comme tu le fais depuis tout à l'heure, et nous on peut voir que le positif par exemple.
Et on peut
aussi se reporter à l'histoire de ce club là malgré tout. L'année où ça va en finale contre l'Atlético, c'est pas une saison fabuleuse à le championnat, parce que je crois qu'ils se qualifient pas pour la Ligue des Champions qui était leur objectif.
Mais alors puisque Jérôme est parti sur l'effectif, à l'époque
ils avaient quand même des meilleurs joueurs.
L'effectif était meilleur, mais Leipzig était meilleur que ce que montre Benfica aussi depuis le début de la saison, et le match avait été fou. C'est-à-dire moi je parle d'Iran, c'est que ce soir, il peut tout se passer dans ce match-là. Bien sûr que si l'OM fait ce qu'il faut à un championnat, on peut s'ennuyer, puis ça peut mal tourner. Mais ça peut aussi vite prendre feu. Je répète, par rapport à l'histoire de ce club-là, par rapport à ce qui s'est passé contre Villarreal, qu'est-ce qui s'est passé contre Villarreal?
Ils n'étaient pas assez forts aussi. Villarreal, quand tu mets 3 buts à Villarreal en une mi-temps, sachant que.
Et ça, c'est pas possible, ça, puisque ça a déjà eu lieu, c'est pas possible.
Ce qui n'est pas possible, c'est l'état d'esprit de Benfica qui sera complètement différent.
Benfica, c'est qui? C'est un grand d'Europe.
Villarreal, et Eric, tu le sais comme moi, Villarreal, quand ils sont arrivés à Marseille.
Déjà,
il n'a pas mis sa meilleure équipe, l'entraîneur. C'est une réalité. C'est vrai. On l'a vu sur le match retour, il a mis sa meilleure équipe. Au match aller, il ne l'a pas fait. Vraiment que ce match-là, ils n'en avaient pas fait une priorité, Jérôme. Villarreal. Du moins, ça, c'est mon ressenti.
Donc celui-là, il ne te convient pas. Celui contre Donetsk, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'étaient pas en forme, ils n'avaient pas joué. Dis-moi. Donc c'est quoi le match qu'il faut prendre? Ce qu'on a perdu, du coup? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Stade Vélodrome. Il n'y en a qu'un.
Non, les matchs qu'il faut prendre.
Au Stade Vélodrome, les matchs perdus, il n'y en a qu'un. Donc si tu veux qu'on prenne l'exemple sur celui contre Paris.
Est-ce que tu estimes, toi, que Benfica est supérieur à Villarreal?
Benfica, ils n'ont pas de pression. Moi, je pense qu'on les survend.
Réponds à ma question. Est-ce que Benfica, pour toi, est supérieur
supérieur à Villarreal ou supérieur à l'Ajax? Je ne suis pas sûr que Benfica soit supérieur à Villarreal.
Donc, tu as raison d'être optimiste. Je suis d'accord avec toi.
Parce que moi, contrairement à toi, dans toutes les analyses qu'on peut faire en positif ou en négatif, toi, tu vois les négatives et moi, je vois les positives. Mais moi, j'explique pourquoi je vois les positives. Parce que ce soir.
Eric, ça veut dire quoi? Je te dis juste que des références contre une équipe. Alors toi, tu vois Benfica vraiment pas bon, parce qu'à l'arrivée tu les vois inférieurs à l'Ajax et tout ça.
Moi je pense que Villarreal, l'Ajax et Brighton,
ils n'ont pas de joueurs à la hauteur de Di Maria, par exemple.
Je pense juste que le match de ce soir ne peut pas être imaginé par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Parce que ce qui va se passer ce soir, peut-être que ce qui va se passer ce soir va montrer les limites de l'OM. Mais je vous dis, dans l'histoire du club, on a vu beaucoup de matchs comme ça où l'équipe prenait feu.
Non, mais même dans l'histoire du foot,
l'OM n'est pas plus faible que Benfica.
Pascal, un peu de sagesse.
Je vais mettre un peu de clarté. Jérôme, non, tu as raison. Les deux présidents, celui de l'OM et de la Ligue, tu as raison, ils y vont pas. Nous, à Marseille, on n'a rien, on n'a pas de public, on n'a pas de joueurs, on n'a pas d'entraîneurs, ils sont tous à.
Qui a dit qu'il n'y avait pas de public?
Non, mais écoute-moi, j'ai juste une question. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour Marseille ou pour Paris de se qualifier?
Mais je vois
pour
pas
le match retour.
C'est
une analyse, une question.
La question, c'est que Paris, on va pas comparer les joueurs quand même, Pascal.
Je compare pas les joueurs. Le scénario.
Jérôme, je voudrais savoir où veut en venir Pascal.
Je sais pas quoi il veut en venir, mais.
Donc il va nous dire.
Mais le scénario le plus dur au match retour, lequel était, pour Paris ou pour Marseille?
Ben, je vois pas l'intérêt de te dire ça, parce que
dans les pronostics, c'était plus difficile si les, ils sont plus en faveur de l'OM que de Paris Saint-Germain.
Remonter un score à domicile, c'est quand même plus facile que remonter un score à l'extérieur. On est d'accord.
Ce n'est pas un exploit de ne pas se qualifier contre Benfica. Ok, ils prennent pas beaucoup de buts, mais déconne pas.
C'est pas un exploit.
Même tous les Portugais qu'on a en Corse, ils sont pour l'OM. Les gars, ce soir, c'est pas un exploit de battre Benfica.
D'accord.
Ils vont exploser.
D'accord, ok.
Et qui va
les faire exploser, Aubameyang?
Eh ben oui,
non,
parce
c'est
que
mon public.
Ah, d'accord, le public. D'accord.
Je savais pas que le public.
Non,
mais Jérôme, des petites ailes au cul, Jérôme.
Non, mais je pensais pas qu'il marquait.
Jérôme.
Contre Paris aussi, il y a le public qui poussait, mais ils ont pas réussi à marquer. C'est bizarre.
Mais Jérôme, Paris, qu'est-ce que tu me cagues un cake?
Non, mais je te dis,
ça n'a rien à voir.
Alors, c'est toi qui as mis Paris sur la table.
Excuse-moi, Pascal, mais tu me parles d'ambiance.
Les supporters n'ont jamais marqué un but. Oui, scénario. Mais je vous parlais du scénario pour savoir si on ne peut pas se qualifier, nous.
Non,
mais Jérôme.
Vas-y, Eric.
J'essaie de relever le débat.
Merci pour ça, d'ailleurs. Jérôme, on va lever le nombre des équipes.
Oui.
Et on va mettre deux équipes se rencontrent en Coupe d'Europe.
Jérôme est au fond de la casserole.
Une équipe reçoit une autre qui est même, allez, je te l'accorde, qui est peut-être un petit peu plus forte. Allez. L'équipe B qui se déplace est un petit peu plus forte. Elle a gagné deux buts à l'aller et elle va jouer chez une équipe où il y a le meilleur buteur de la compétition. Ouais. OK, qu'est-ce qu'on dirait dans les pronostics?
C'est impossible.
Toi qui dis les pronostics, tu dirais quoi? Tu dis attention, cette équipe elle est plus faible, mais par contre ils ont un mec qui a mis 10 buts,
je dirais, à Athènes, par exemple,
ils auraient le meilleur buteur, tu arrives au stade d'Olympiakos, c'est la folie et tout, et tu as gagné qu'un but à toi, et tu dirais quoi dans le pronostic?
On enlève l'OM, on enlève tout, tu dis
un but de retard avec le meilleur buteur de la compétition, on regarde pas le match.
Mais je suis d'accord avec toi, Eric. Voilà, sans connaître les joueurs, c'est ce que je dirais. Le problème, c'est que Marseille, les joueurs, je les connais.
Sauf que ce serait pas la première fois que
la première fois que Harit, Verretou, Kondogbia, Onaï,
Verretou, il a juste gagné la Coupe d'Europe avec la Roma.
Avec la Roma,
oui, voilà. Donc c'est pas des mecs qui découvrent la compétition quand même.
Pascal voulait encore élever le débat.
Le débat, Pascal, parce que c'est vrai que là on était.
Oui, Pascal.
Non mais Jérôme, il a bien renversé le Real, non?
Oui. Mais je vois pas.
Il y avait d'autres joueurs.
Pourquoi ça serait impossible, Jérôme?
Parce qu'il y a plus de qualité à Monaco que là.
Il y avait Rotten face à Zico.
Zico, c'était peut-être Michel Platini.
Zizou.
Ce que je veux dire, Pascal.
On va donner la parole à Mathieu.
Attends, je donne la parole à Mathieu, mais je réponds juste à Pascal. Pascal, je te parle juste de l'effectif et à Eric, c'est la même chose. Dire, moi, je demande qu'à être surpris, mais ça fait des mois et des mois qu'on demande qu'à être surpris des joueurs qui vont être alignés aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Donc d'un moment, bien sûr que je suis pessimiste. On peut faire table rase du passé et dire sur ce match-là, avec la ferveur, Jérôme, parce que c'est un quart de finale d'Europa League, et ben, Jérôme, tous les mecs vont augmenter leur niveau et ils vont être impressionnés.
Je vais t'expliquer.
Oui,
mais on l'a pas vu depuis le début de l'année.
Gagner 1-0 chez toi, c'est un exploit du coup.
Alors Mathieu nous rejoint au 32-16 dans Rotten sans femme sur RMC.
Salut Mathieu.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Mathieu.
Salut Mathieu.
Bon,
Jérôme,
oui.
Première question. Voilà, direct. Pourquoi tu es toujours contre l'OM?
Ah, mais c'est faux. C'est faux, Mathieu. Non, mais Mathieu,
il a toujours voulu jouer chez nous, Mathieu.
Tu te dis supporter du foot français.
C'est vrai, mais c'est vrai.
Et pourquoi là, tu es contre l'OM?
Mais attends, Mathieu, on n'a pas compris.
Le problème où tu es pas réaliste, c'est que tu donnes aucune chance à l'OM, Jérôme.
Il a raison ce qu'il dit, Eric et Pascal. Tu es pas réaliste.
Mais si, je suis réaliste, au contraire.
Justement, il est trop réaliste.
Je t'écoute parler depuis tout à l'heure en disant que l'OM n'a aucune chance, je sais pas quoi, enfin bref. Écoute bien ce que je te dis. Tu te rappelles quand je t'ai appelé contre Villarreal?
Ouais.
Je te souviens, je t'ai dit, l'OM, ils vont les enfoncer à Villarreal.
C'est vrai. Et tu as eu raison.
Écoutez ce que je te dis, ce soir l'OM, il gagne 3-0 contre Benfica.
Eh ben écoute, je souhaite que ça. Sache Mathieu une chose, c'est pas que je suis contre l'OM, au contraire, moi je suis pour le football français
et je demande.
Non mais si, en fait je me fais mal comprendre. C'est que je vais te dire Mathieu la vérité, tu rigoles mais c'est ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire de Benfica? Moi je regarde juste les forces et les faiblesses des deux équipes. Je me dis que Benfica, je les ai moins vus jouer que l'Olympique de Marseille qu'on voit toute l'année et même en Coupe d'Europe, d'accord? Non, mais... Et que aujourd'hui avec l'effectif de l'OM, mis à part Aubameyang qui a surpris son monde en étant encore une fois meilleur buteur d'Europa League, les autres m'ont toujours déçu. Donc je demande qu'à me tromper. D'accord. Écoute, okay. Déjà tu as te trompé.
Juste question à te poser.
Oui.
Tu as regardé le match aller?
Bah oui, on l'a commenté.
Tu as regardé que Benfica ou tu as regardé l'Olympique de Marseille?
J'ai juste vu Marseille qui a eu une demi-occasion et qui a marqué un but sur une erreur ce soir, il faudra mettre deux buts d'écart, deux buts. T'as vu le but de parce que tu me dis, mais devant mes contradictions au match aller, mais il n'y a pas de problème au match aller. La dernière demi-heure était bien meilleure que la première heure qui était infâme à regarder. C'est la réalité.
La première mi-temps a été dégueulasse.
Si Silva, le défenseur de Benfica, il apprend pas sous le pied, Marseille, il marque jamais.
Alors, Mathieu,
jamais.
Encore une question avant de la parole à Eric et Pascal. Vas-y, Mathieu.
Moi, j'ai une question.
Encore une.
Tu as vu les faiblesses défensives de Benfica ou pas?
Mais je regarde tous les matchs,
tu dis qu'on a aucune chance.
Mais tellement il y a une faiblesse au match aller, tu les as vues les faiblesses défensives de Benfica, Mathieu? Au match aller? T'as été impressionné du jeu offensif de l'OM, toi, sur le match aller? Réponds à ma question, Mathieu. T'as été impressionné du match offensif de l'Olympique de Marseille à Benfica?
Pas du tout.
Bon, bah, d'accord. Bon, bah, alors.
Si tu as une équipe plus compétitive avec des joueurs qui sont blessés, parce qu'il y a des joueurs blessés dans notre effectif, Benfica,
à la Ligue, tu perds pas. Oui, mais okay. D'accord. Mais bon, les joueurs blessés sont encore blessés aujourd'hui. Et puis Mathieu, pour finir,
et
pour
parler
aussi à Eric et à Pascal, moi je veux bien, mais avant des matchs de Coupe d'Europe, pour faire des exploits aussi, et pour te transcender avec la ferveur qu'il y a à Marseille, il faut aussi avoir un petit peu de confiance en soi, tu vois. L'OM, c'est 5 défaites de suite. Après avoir gagné 4 matchs de suite, 5 défaites de suite. Non, et on là, est passé par là aussi.
Tu vas nous sortir tous les chiffres. Moi, le seul truc qu'on peut te reprocher, Jérôme, c'est que, et ce qui est étonnant dans ton raisonnement, c'est que tu ne donnes aucune chance à l'OM.
Mais non,
tu
l'as dit. Il a laissé un petit.
Alors, quand vous parlez, vous ne vous souvenez plus ce qu'il a dit. Donc, vous ne vous souvenez plus ce qu'il a dit hier et vous ne vous souvenez plus ce qu'il dit en introduction de ce débat. C'est-à-dire que c'est. Voilà, donc vous réécouterez si vous ne vous souvenez plus de ce que vous dites et que vous devenez fada, vous réécouterez. Jérôme ne donne aucune chance à l'OM. Et ça, on connaît le foot et surtout quand il n'y a pas autant d'écart entre les deux équipes, c'est impossible de dire ça. Ce serait Liverpool en face.
On attend le match.
Tu peux faire un débat en disant je ne les vois pas passer parce que ça.
Oui.
Mais
dans le foot, tu donnes un truc et je demande qu'à me tromper.
Tu dis qu'il y a zéro chance, tu dis que l'OM n'a pas le niveau pour passer, n'a pas les armes pour passer. Ouais. Et de même, parce que c'est sûrement toi qui vas avoir raison, du coup, parce que tu es sûr de toi. Nous, on n'est pas sûr de nous.
Mais par contre,
si ça tourne mal, tu vas venir nous expliquer quoi demain?
Je dirais bravo.
Jean-Louis,
contrairement à toi, Eric, ça m'arrive de manger mon chapeau.
Tu t'enflammes, Roten. Oui. Non, écoute-moi. Tu sais quoi? C'est mieux qu'on parle plus de l'OM. Parlons de Lille. Il joue là tout à l'heure.
On va en parler.
Visiblement, Pascal est même rédacteur en chef de l'émission, en plus d'élever les débats. Donc bravo, Pascal.
On fait pas, Pascal. On va continuer. Ça tombe bien. On va continuer à parler de l'OM.
L'OM, c'est tout à l'heure à 19h. On reparlera d'Aubameyang. On remercie Mathieu d'être venu au 32-16. Mais comme ça vient d'être indiqué par le rédacteur en chef de l'émission, Lille, c'est dans une seconde. On va retrouver Jean Baumel au stade avant Lille-Aston Villa en Conference League.
Chaud,
et on va s'attaquer à ceux qui en veulent encore à Martinez. Est-ce qu'ils sont pas ridicules? À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h29 sur RMC, la deuxième demi-heure de Roten sans flamme, de ce Roten sans flamme exceptionnel. Oui, encore en mode Coupe d'Europe. Lille va jouer dans 15 minutes son quart de finale retour contre la Aston Villa. Et bien sûr, à 21h, on en parle depuis 18h. L'Olympique de Marseille reçoit Benfica pour la vengeance de la main de Vata. Jean-Louis Tour, oui. Eric Dimeco et Pascal Olmeta. Et dans 15 minutes, on a un supporter de l'OM qui va venir nous détendre. C'est Julien Cazard.
Oui, bien sûr. Et le coup d'envoi de Lille Aston Villa, on va tout de suite à un quart d'heure du coup d'envoi au stade Pierre Mauroy retrouver Jean Baumel qui va nous commenter le match tout à l'heure.
Jibo.
Salut Jibo.
Bonsoir. Salut Jibo. À tous.
C'est le feu.
Salut. Ah, ça commence à être le feu, ouais, parce que stade à guichet fermé, 47 000 spectateurs dont 2600 Anglais qui ont fait le déplacement. Bon, il y a ce but à remonter et au niveau de la compo lilloise, c'est quasiment la même que la semaine dernière, à l'exception de Dedon Zegrova qui est blessé à la cheville et Youssouf Yazici qui est titulaire. On pensait voir Angel Gomez, le jeune international anglais, mais pareil, hein, il est un peu juste, il a fait quelques minutes jeudi dernier et c'est Haraldsson donc qui est titulaire. Donc voilà, Lille qui avait fait bonne figure la semaine dernière, ouais. Et surtout avec Emiliano qui avait été très bon. Donc il y a de l'espoir de se qualifier, il faut faire un gros match ce soir.
Est-ce que le fils de Pascal est sur la feuille de match?
Je te dis
qualifié.
Ça dans.
Il n'est pas qualifié.
Non, mais il n'est pas qualifié. Il n'était pas inscrit.
Bah oui.
Mais je sais qu'il a prolongé, Pascal.
Et voilà, il a pas prolongé, il a signé son premier contrat pro.
Voilà. Voilà.
Bravo.
Bon, allez, merci Djibo.
À tout à l'heure.
Et ce match, tu dis pas ça?
Ah si, nous l'a dit.
Il est dans les tribunes.
On ne pouvait pas passer à côté, nous. Ce soir, c'est le retour de l'ennemi public numéro 1.
RMC, Roten sans flamme.
Il va falloir venir chez nous, hein. Il faut pas avoir la grippe ni la gastro, parce que ça va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses.
Faites entrer l'accusé.
Et pour la première fois depuis le 18 décembre 2022 et cette fameuse finale de la Coupe du Monde, Emiliano Martinez sera donc sur un terrain français avec Aston Villa à Lille pour ce quart de finale de Conference League. Celui que la France déteste pour son attitude depuis ce France-Argentine perdu va donc être reçu par des sifflets, des chants hostiles. Ce sera chaud, promettent les supporters lillois, ils l'ont dit à Djibo hier. Mais alors ceux qui en veulent toujours à Martinez sont accusés ce soir d'être ridicules et l'accusation est menée par le procureur Pascal Olmeta. Bonsoir monsieur le procureur.
Mon Dieu. Bonsoir à toutes.
Vous vous y connaissez en gardien et en provocation, donc c'est important d'avoir votre avis. L'avocat de ceux qui en veulent donc à Martinez, c'est maître Jérôme Roten. Bonsoir maître.
Bonsoir.
Et le juge Dimeco va trancher. Bonsoir monsieur le juge.
Juge impartial.
Ah bah bien sûr, surtout sur le sujet.
Ouais.
Alors, monsieur le procureur Olmeta, qu'est-ce que vous reprochez à ceux qui en veulent encore à Martinez?
Qui sont totalement ridicules comme Jérôme. Bon, enfin, le seul
ballon d'or. Fais gaffe parce que je risque d'être ridicule moi aussi du coup. Hein.
Ah bon, on va voir. On ne sait pas ce que tu penses.
T'inquiète, je t'ai vu tout nu, tu n'es jamais ridicule.
Bon, le seul. On n'a pas les trucs vrais.
Ah, pourquoi? C'est faux. Non, mais c'est vrai, je vous le confirme.
Ah bah, c'est sûrement. Hey. On te fait confiance, Pascal.
Ouais, non, pas de problème. Hein, Béco?
Allez.
Bon, le seul ballon d'or qu'on ait eu, c'est en 63, les gardiens de but, Yachine.
Oui.
Il n'y a pas longtemps, il y a eu le trophée Yachine. Et dans les cinq gardiens, il y avait Courtois, Henderson, Ter Stegen, Bounou et notre ami Martinez, Emiliano Martinez. Et c'est un hasard, quoi. Et ça a été le meilleur gardien au monde, un des meilleurs gardiens au monde. Il a été meilleur gardien du tournoi, la Coupe du Monde. Il a arrêté 3 pénaltys. C'est certain que ce match contre la France, il était vraiment en plein dedans, on a pu le voir, puisque même à la dernière minute, il sort un ballon où on aurait pu la gagner, nous. Mais il a fait gagner son équipe, il a fait gagner un peuple. Et quand un gardien, il est vraiment dans son monde, parce que je peux en parler, je le sais, et certains, ils peuvent ouvrir leur gueule, ils y comprennent rien. Voilà, il ne faut pas aller le chatouiller. C'est vrai que je ne suis pas là pour l'excuser par rapport à certains gestes.
Ah bah si, apparemment.
Non. Je te parle de l'homme. Il a 31 ans. Il est pour moi un des meilleurs au monde.
Un peu creux.
Voilà. Aujourd'hui, il y a que certains imbéciles qui vont continuer.
Et lui, c'en est un imbécile ou pas?
Quoi?
Il est imbécile lui ou pas?
Mais dis-moi, Jérôme.
Non, mais je ne sais pas. Vu que tu traites les gens d'imbéciles,
il a fait de mal à personne. Il a fait gagner son.
Lui n'est pas imbécile.
Son équipe. Ça ne mérite pas de la haine, Jérôme.
Ah, d'accord. Okay.
Je défends le gardien. Deux ou trois gestes, ça a pu choquer. Mais il ne faut pas oublier que les gardiens sont particuliers, sont à part. Vous, voilà, ils ont des pressions énormes. Pour lui, il a fait gagner son peuple, un peuple argentin, comme rêvait peut-être notre gardien de faire gagner la France entière. Et ben, ça n'a pas été le cas. Et ben voilà, il a pété un câble, mais dans le bon sens. Voilà, c'est tout.
Ok. Alors, merci. Jérôme, c'était il y a un an et demi. Est-ce qu'on peut pas passer à autre chose là ?
Non, il faut pas avoir la mémoire courte. En fait, il faut pas oublier ce qui s'est réellement passé, parce que je veux bien que on arrondisse les angles du côté de Pascal Olmeta et puis qu'on dise et c'est les gardiens, la confrérie des gardiens, ouais. Et puis les gardiens ils sont dans leur monde et oui, mais heureusement que les gardiens sont pas tous avec un QI, je passerai les mots, tu vois, un tout petit QI.
Et là tu parles de Martinez, ouais, pas de Pascal.
De Martinez, bien sûr.
T'es un gros cul, t'as pas de petit
QI. Mais c'est pas grave, mais t'en fais pas, il m'a servi à beaucoup de choses. Exactement. Moi je te dis juste que Pascal, pour te répondre, comprends pas ta façon de défendre la confrérie des gardiens, qui ont craché sur l'équipe de France, sur la France, sur ton pays, à moins que tu te sentes pas français. Et à partir de là, je peux comprendre que tu défendes Martinez et qu'on oublie.
Il a fait son boulot.
Mais ce que
Jérôme,
je vois, le geste obscène qu'il a fait quand il a reçu son trophée. Déjà,
c'est quoi les gestes
avec
le trophée, oui, quand même. Il le met à la place de son sexe.
Direction des supporters français. En plus, je vois pas en quoi il a pris en grippe les supporters français qui ont supporté leur équipe là-bas.
Vu ce que je faisais sur les terrains, j'aurais dû prendre 15 ans de prison.
Oui, mais toi, c'était une autre époque. Là, aujourd'hui,
laisse-moi finir.
Je t'ai laissé parler et après voilà.
Mais on passera pas à côté de ça, Pascal.
Il y a pas de problème. Moi, le premier geste obscène, alors je trouve ça incroyable dans un pays en plus. Bon, le Qatar qui est comme ça, je pense qu'il faut aussi réfléchir un petit peu plus que le bout de ton nez. Mais
parce qu'il fallait s'adapter au Qatar.
Je pense que dans le contexte où il était. Je pense que ça s'appelle juste du respect. Mais lui, apparemment, il en a pas de respect. Il est juste content et tant mieux pour lui d'avoir été champion du monde et d'avoir été, comme tu dis, décisif sur la finale, au moins sur la finale, quoi qu'il l'a été aussi avant. Et après, il y a la célébration en arrivant là-bas. Alors, c'est sûr que les images, aujourd'hui, on voit tout. Tu n'étais pas juste enfermé en Argentine quand tu célèbres ça. Et alors, la poupée qui a mis mal à l'aise tous ses coéquipiers sur Kylian Mbappé, sur la façon de parler des Français. Il a continué même en Angleterre quand il est retourné dans son club. Donc, c'est normal, Pascal, qu'en revenant en France, comme un certain Léo Messi qui est venu cracher sur la France et sur le Paris Saint-Germain depuis qu'il est parti, quand tu reviens en France, heureusement qu'on va pas te déplier le tapis rouge en disant c'est génial, lui est champion du monde, c'est un grand gardien. Je parle pas de ses compétences, je parle juste de son QI, de son intelligence. Et malheureusement, pense que il en manque beaucoup d'intelligence chez ces joueurs là. Ouais. Donc j'encourage les Lillois
sifflez-le.
À le conspuer. Allez-y, prenez vos sifflets, sifflets. Allez-y, enfoncez-le.
Avant le verdict du juge, Pascal, est-ce que ton anecdote est racontable à la radio, sachant qu'il y a des enfants qui écoutent?
Non, je parle pas de cul ni rien, t'inquiète.
Bon, alors vas-y.
Non, tout simplement, si ce soir, j'espère qu'il va passer au travers, parce que si ce soir il est comme le gardien du Real hier, tu as vu, ça fait gagner une équipe. Non, Jérôme, la confrérie des gardiens, je vais t'en raconter une. Peut-être tu étais pas né, René Vignal. Tu sais, tout jeune, il commençait à jouer. Il est parti avec un Corse, ils ont fait un casse. Tu sais quoi ? Quand il a été chopé, il n'a pas voulu parler, il a fait la prison pour l'autre.
Et alors ? D'accord.
Voilà la confrérie des gardiens.
Ah ouais, donc ça veut dire qu'en réalité... Non mais dans la mafia, alors, c'est que des gardiens, alors, puisqu'ils ne parlent jamais, les mecs.
Nous, on est là pour faire le job, pour faire le boulot, d'accord, et puis c'est tout.
Alors,
c'est pas de question... On rattrape les erreurs de nos défenseurs, point barre.
Merci pour l'anecdote.
Elle est magnifique, celle-là. Elle est réelle.
Ah on te croit. De 49 à 54, le gardien de l'Europe.
C'est un gardien.
Et vu que c'est une confrérie, dis à ton fils d'aller prendre une photo avec lui.
Non, il est décédé il y a 8 ans. C'est compliqué, Jérôme.
Non, avec Martinez.
Avec Martinez, oui, bien sûr. Bon, en tout cas, merci Pascal.
Qu'est-ce que tu dis, Jérôme?
Qu'il y aille, si c'est une référence.
Tu as élevé le débat et maintenant, on sait vraiment qu'il y a dans la tête d'un gardien grâce à cette anecdote. Ouais. Alors, Eric, le verdict.
Ah, écoute, moi, le problème, c'est que vous savez ce que j'en pense, puisque moi, j'ai critiqué fortement, comment il s'appelle, Martinez. Notre ami, la Martinez, par ce comportement. Le joueur, il n'y a rien à dire, hein, il a été énorme. Il est un grand artisan du titre de champion. Il restera dans l'histoire. Non, mais c'est... Moi, je trouve même que ça fait partie du folklore du football. Voilà, il y a des têtes de Turc, il y a des mecs qui... moi, je me suis fait siffler. Même quand j'étais à Monaco, je me suis fait siffler au Parc des Princes. Et ben voilà, c'est l'histoire du foot, c'était le folklore. Les mecs n'oublient pas, je trouve ça bien. Il est hors de question de l'agresser ou de lui jeter des trucs dessus. Si les Lillois le sifflent pour lui rappeler un peu. Et lui-même, je pense qu'il s'attend à être sifflé. Et je pense même qu'il va s'en nourrir de ça. Même qu'il est capable de danser comme faisait Pascal quand il était venu au Stade Vélodrome. Donc si tu veux, moi, pour moi, tant que ça dépasse pas les bornes, que c'est des sifflets, des chansons, mais c'est pas grave, c'est le folklore du foot. Juste lui rappeler qu'il est en France, qu'il s'est pas très bien comporté, c'est pas grave, c'est que du football. Personne va aller en prison, personne va avoir du mal.
Eric, mais moi, je suis d'accord avec
Jérôme. Raconte
un truc, hein.
Non, le verdict, c'est Victor de Jérôme. On a compris. Mais tu peux nous raconter un truc quand même, Pascal?
Non.
Ah, sur Eric?
Bah oui, tu avais envie.
Ben non, mais on n'est pas obligé de tout raconter non plus quand même.
Toi, t'as peur.
Non, mais non, mais le problème, c'est que des cadavres, on en a quelques-uns tous les deux avec Pascal. Donc, je croyais qu'il parlait pas, moi, les gardiens. Oh, hein, la confrérie.
Je balance pas.
Une tombe.
Vous auriez mieux fait de faire un casse ensemble, visiblement. Là, tu n'aurais pas balancé.
Ah, bah oui. Malheureusement, c'est pas des casses qu'on a fait ensemble.
Allez, dans une seconde.
Ah, merde, passe quoi.
Le coup d'envoi de Lille à Aston Villa, justement, avec Martinez sur la pelouse et le casar enchaîné. Restez avec nous, et tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h46 sur RMC, on est là, on est bien, on finit la première heure de Rotten sans flamme avec Julien Cazar et son Cazar enchaîné. On est toujours avec Pascal Olmeta, avec Eric Dimeco. Ils sont chauds, oui, l'Olympique de Marseille va bientôt commencer son match retour contre Benfica. On est avec Jean-Louis Tour, oui, mais il y a Lille avant.
Et oui, Lille a déjà commencé contre Aston Villa, quart de finale retour de conférence. Lille a un but à rattraper face à Aston Villa, Jean Baumel.
Exactement, une minute de jeu, les Lillois qui ont pu souvent le ballon, démarre avec peut-être une interception de Jonathan David, mais oui, comme une faute au préalable sur Ezri Konsa et dit lui-même le Canadien à l'arbitre slovaque, c'est lui qui a été victime. Bref, le ballon va revenir en faveur des Anglais. Grosse ambiance ici au stade Pierre-Mauroy, je vous le disais, hein, avec 47 000 spectateurs. Grosse ambiance. Beaucoup d'Anglais aussi qui ont fait le déplacement depuis Birmingham. Et là, les Anglais là, qui sont à l'attaque pour l'instant. Démarrage un petit peu tranquille, c'est pas l'euphorie, mais voilà, Lille doit remonter un but, tu l'as dit Jérôme, pour espérer une prolongation.
Allez, bon,
et deux buts d'écart, ça c'est encore mieux.
Siffle-moi le gardien là, allez.
Ah, bah, écoute, je peux te dire, j'ai fait un reportage avec les supporters hier, et quand il est rentré sur le terrain, il en a pris plein la tête. Hein.
Fais-lui une petite licorne.
Allez, merci Djibo, tu interviens dès qu'il se passe quelque chose, bien sûr.
Écoutez, c'est pour lui.
Voilà. Ah oui, là il a le ballon, Martinez, ok. Ah bon, on se rend bien compte. Allez, on y va, tu interviens même avec Julien Cazard qui arrive.
C'est
Roten
sans flamme.
Le casar enchaîné.
Bonsoir à tous et à tous. Alors, j'ai une petite pensée pour les Lillois quand même, parce que qui doivent bien se dire que leur match est tellement important qu'on préfère quand même mettre ma séquence que de faire le live intégral de leur match.
Excuse pas, Julien. Allez,
ils
vas-y.
Ils ont qu'à être en, mais moi je leur dis, ils ont qu'à être en demi-finale et après on discute. Après on verra. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 18 avril 2024 et le Paris Saint-Germain n'est toujours pas éliminé de la Ligue des Champions.
Oh, ça, tu vas nous faire ça encore pendant 3 semaines? On va devenir fou. Elle sort de match de l'OM. Lâche-nous la gamme. Avec ton équipe de maille, je viens. Ou tu parles de l'OM, ou tu fermes ton cul, ou suce-toi, ou les trois.
Oh là là.
Pardon.
Ouais, t'as raison, on aurait pu faire Lille à Aston Villa. Quelle erreur.
Jean-Louis, tu dis que moi je suis grossier.
Ah ouais, non, là, c'est pas possible.
Okay, alors déjà, moi, c'est pas moi. Déjà, je suis complètement de gros Samir. Gros Samir. Mais il est tendu, vous êtes fou. Il y a un match de fou. Il est tendu. Pardon, gros Samir, c'est juste factuel. Mais effectivement, nous sommes le jeudi du terrain. L'OM n'est toujours pas éliminé de la Ligue Europa non plus. Tiens, Jean-Louis, tu dis pas, on n'a jamais été aussi proche, Jean-Louis. Non, tu dis pas ça, là.
Non, j'ai jamais dit ça avec le PSG.
Non, mais toi, comme hors antenne, tu me dis, non, c'est des dingos, je veux pas d'ennuis, ils vont me saouler, ils sont complètement débiles. Je sais. En plus, ils me disent, ouais, de toute façon, vaut mieux pas que je fasse de blagues, ils comprennent rien au second degré, tu me le dis tout le temps. Donc, si. Tu dis pas?
Non.
C'est vrai. Non, c'est peut-être moi. En préambule de ce journal, je voudrais revenir sur au-delà des blagues, sur un moment qui a été quand même hier un moment d'erreur, un moment de faute, un moment où j'ai été pris en flagrant délit de faute dans le quiz. Oui, je veux le dire, Il y avait le moment du coup de kick à quoi dans le dos. Eric, tu connais ce moment où on dit pour telle équipe en numéro. Voilà. Et alors, qui a quoi dans le dos? Fallait deviner le numéro de maillot de le numéro 10 du Barça, champion d'Europe 92. Malheureusement pour moi, Fred Hermel était dans les parages et Fred, il laisse rien passer. Fred,
pour le Barça, finaliste et vainqueur de la Ligue des Champions 1992, en numéro 10. Alors, Luis Enrique.
Luis Enrique.
En quelle année? En 92.
Romario.
Luis Enrique, il jouait au Real à cette époque-là.
Romario.
Guardiola.
Guardiola!
Attends, j'ai une réclamation. Subitement, Fred Hermel nous dit qu'il n'avait pas le 10 Guardiola.
J'ai honte. Non mais j'ai honte, Guardiola. Non attends, mais tu t'inquiètes pas. Alors du coup après je suis allé m'excuser auprès de Fred qui a vérifié en direct avec moi.
Et c'est toi qui avais raison.
Et c'est Guardiola qui avait le numéro 10. Voilà. Donc il m'a fait mais il m'a dit autant pour moi,
Plus de foot maintenant.
Mais si.
Non mais en même temps, moi j'en veux pas. Lui, au comptoir d'Estelle, son truc, c'est les fromages à hausser, l'invasion des trottinettes, le manque des sous-marins nucléaires au Turkménistan. Tu vois, c'est ça, c'est son domaine. Alors lui, il s'est lancé sur le Barça, sauf qu'il maîtrise pas. Déjà, en plus, il les déteste. Donc, allez, sommaire. Dans cette édition, nous reviendrons encore une dernière fois sur la soirée magique de mardi. C'était un moment de bonheur, d'extase, de jouissance. Toute la France du foot était avec le Paris Saint-Germain, Pascal, Eric, tout le monde. Et surtout Manu Petit qui était au commentaire. Et alors lui, Manu Petit, quand il commente, c'est vraiment une jouissance.
Elle est bonne. Entre de Dembélé, c'est touché par Zaïre Emery. Il reste encore une minute, un peu moins dans le temps additionnel de la première période. Ballon pour Vitinha.
Elle est bonne.
Dembélé, Ousmane Dembélé. Il aime ça, Vitinha. Bien sûr qu'il aime ça.
Elle est bonne.
Sexy.
Va.
C'est fini.
Elle est bonne.
Ça va vite.
Bien.
Parce que celle-ci, elle était vicieuse quand même.
Ça va vite.
Elle est bonne. Ah, j'adore, moi j'adore Manu, il m'emballe. C'est qu'en fait, quand tu écoutes un match avec Manu, t'as l'impression d'être dans un sauna libertin. C'est plutôt sympa. Il est champion du monde. Alors attention, il excelle dans tout Manu, mais vous savez que son point fort, c'est les expressions.
Ah oui.
Et il tombe jamais à côté.
Jamais.
C'est-à-dire que le PSG, ils ont gagné parce qu'ils ont bénéficié. Ils ont bénéficié de quoi, Manu?
Ils font la décision dans ce match-là. Bravo au Paris Saint-Germain. Ils ont bénéficié de certaines circonstances atténuantes.
Oh, ça passe, non?
C'était favorable. C'est dommage parce que c'était les circonstances atténuantes, c'est autre chose. Lui, il s'est dit, je suis lancé sur circonstances. Pour le premier mot qui vient, c'est atténuante. Ils ont bénéficié de circonstances. Alors, dans ce journal, nous abordons l'autre qualification. Dans l'autre match, c'était le Bayern Munich face à Arsenal. Hier, lors du match, il y a eu un arrêt de jeu. Vous n'avez pas vu, peut-être, les Londoniens sont restés au bord du terrain. On ne comprenait pas pourquoi. Ils étaient là, ils étaient bloqués. Alors, Daniel Bravo, pour beIN Sport, lui, il avait son idée.
Mais qu'est-ce qu'il faut, hein? Le Bayern qui a joué très vite. Hein.
Il avait indiqué qu'il fallait siffler.
Il y avait la pause fraîcheur.
Il n'y a pas de pause fraîcheur, il fait 3 degrés.
La fameuse pause fraîcheur.
C'était la pause de chaleur. Ça va, oh, arrête un peu.
C'est pour se réchauffer. Un petit chocolat chaud, un petit thé.
Allez, arrête pas.
À Dortmund en avril, t'invites Brune Insolation. D'ailleurs, je fais tous ceux qui nous écoutent sont en vacances scolaires, qui sont en train de faire des bronzettes à Dresde, à Rostock, à Dansk, à Vladivostok. Indice 50, hydratez-vous. Vraiment, c'est hyper important. Dans cette émission, nous parlerons bien entendu de la rencontre de ce soir, parce qu'à mon avis, on peut tourner autour du pôle. L'OM face à Benfica, ça va être le feu. Toute la France, là, pour le coup, vraiment, est derrière l'OM. D'ailleurs, j'ai plein de messages, là, sur le chat de l'émission. Par exemple, Loïc de Andoum, qui met Forza pour ce soir à l'Olympique. Samir, de Vitrolles, faites-le pour nous, à jamais les premiers. Thierry de Marseille, allez l'OM, en route pour la demi. Jean-Louis de Compiègne, allez Benfica, sortez-moi ces bargeux, ça leur fermera le... Non, ça c'est une erreur. Enfin bref, tout le monde est derrière. Je sais pas qui c'est. Ouais, à limite, dingo. Toute la France derrière. Et une personne était derrière l'OM aussi, aujourd'hui. Ségolène Royal, qui était sur le plateau de BFM TV, qui a voulu, à sa manière, encourager l'OM avec une tirade d'un des plus grands poètes phocéens. Marcel Pagnol, Edmond Rostand, Frédéric Mistral. Non, mieux que ça, c'est sur BFM, c'est Ségolène.
Vous êtes bien, là. Et là, je vous ai entendu organiser, personne ne peut nous canaliser. Ça fume la fumée, la pistée par les banalisés. Hasta luego faisant un, hasta luego faisant deux, hasta luego ou hasta luego.
Ah ouais. On est au top de la neige.
C'est dur. Là, ça, c'est dur.
Il n'y a pas besoin. Pourquoi la France est dans cet état, hein.
Il y a des gens qui ont voté pour elle, tous ces gens. Jour, ils devront répondre. Gens qui ont voté pour cette personne.
Réponds-toi, Julien.
Jacques-Henri Hérault qui chantait Ayam.
Écoutez, on va parler du vrai club de l'Olympique de Marseille, de ceux vraiment qui veulent que l'OM gagne. Jean-Louis Gasset a fait une causerie de tous les diables pour le match de ce soir et les micros de Flo Germain étaient présents.
Bon, les gars, ce soir, je veux une équipe pour le gagner. Ce soir, je veux qu'on n'ait pas le regret. Parce que ce soir, on peut écrire l'histoire du club. Alors qu'il est, ok, on est éliminé. Mais on a les moyens de tout renverser. Même si en face, c'est pas n'importe qui. Il y a du Drogba, du Costa, du Eden Hazard. Mais nous, on s'en fout.
Mais pardon, mais c'est quoi Drogba, Hazard et Costa?
Attendez, qu'est-ce que je raconte, moi?
Ah, mais Jean-Louis, tu t'as trompé. C'est pas la bonne causerie.
Ah, mais t'as raison, mon Jean-Louis. J'avais pris celle qu'on avait fait avec le Loublin avant Chelsea en 2015 à le Paris Saint-Germain, comme modèle. J'ai oublié de changer les noms.
Eh ben oui, c'est Benfica en face, c'est pas Chelsea.
Pardon. Alors, moi, ce soir, on va faire un marquage individuel à la défense pour être prudent. Basile, tu prends Pacheco. Moser, tu seras sur Eusebio. Et toi, Eric, tu lâches pas Nuno Gomez. Dès que vous récupérez, vous balancez sur Jean-Pierre ou Chris ou Abedi. Tu risques de pas avoir trop la balle.
Ah, moi, c'est pas Abedi, c'est ça.
Mais Jean-Louis, tu as tout mélangé.
Comment ça, c'est pas Abedi? Qu'est-ce qu'il... Il est où, Cazo?
Mais Jean-Louis, y'a pas Abedi, y'a pas Cazo. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ça. C'est Ndiaye, c'est Balerdi, lui, c'est Veretout. Et lui, c'est Mombagna.
Ah, merde. Ah, c'est vrai, t'as raison, mon Disney, ça me revient maintenant.
Mais t'as pris un coup de chaud, et t'étais où, là?
Pardon, les gars, je sais pas ce qui m'a pris, là. En fait, j'étais dans le métaverse.
Dans quoi?
Le métaverse. C'est un monde virtuel où tu vas pour échapper un peu à la réalité.
Et du coup, t'as pas préparé le match?
Et non. Oh, pardon, Gisling. Et pardon, président, désolé. Je sais pas ce qui m'a pris. Je crois qu'on va pas être prêt pour ce soir.
J'étais prêt, vous. Et de toute façon, vous inquiétez pas. Hein. J'étais pas le seul ici. Les supporters, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le métaverse. Et heureusement, hein. Parce que la réalité est compliquée.
Allez,
vous entendez?
Oh putain, ah oui. Mais ce soir, ils vont prendre une sacrée claque.
Moi aussi, c'est après vous.
Merci.
Non, mais ils vont le faire,
Et à tout à l'heure pour le
bien sûr.
Ah oui.
Mais bien sûr.
C'est le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Lille Aston Villa corner pour les Lillois, Jean Baumel.
Oui, ça n'a. Non, ça a été une position de hors-jeu.
Ah, ok. Donc, finalement, 0-0 toujours. Mais
domination des Lillois hein, dans ces 12 premières minutes avec Jonathan David qui avait l'opportunité avec une belle remise de Yazice. Mais il a frappé au-dessus de la barre transversale d'Emiliano Martinez qui lui a failli faire une mauvaise sortie, mais c'est rattrapé.
Jibo, tu nous racontes tout ça dans une seconde. 0-0. Lille doit marquer pour rester en vie dans ce quart de finale de Conference League que vous suivez sur RMC dans Roten sans flamme. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.